Bonjour, donc comme Monsieur le Directeur vous a dit, on va traiter le thème Darwin et les singes. Je ne sais pas si ça vous dit grand-chose. Les singes, probablement vous savez qu'est-ce que c'est. Darwin, c'est un monsieur qui a vécu au 19e siècle. C'est un Anglais qui a monté une philosophie, une théorie qui est enseignée, qui a été enseignée en tout cas pendant un siècle, un peu plus, et qui a fait beaucoup de mal au monde par sa théorie farfelue et qui était rehaussée au niveau d'une science et que malheureusement, tragiquement, dans des écoles en Occident, on enseigne dans les universités et dans des écoles primaires, secondaires, dans les facs, on enseigne une théorie aberrante, comme je vais vous l'expliquer, aberrante pour chaque esprit qui est construit normalement, comme nous sommes tous en principe. Et nous allons voir un peu la psychologie, pourquoi cette théorie, qui n'est pas une théorie, qui est un foie de charbonnier, a été tellement accepté, entre guillemets, dans le monde, et on abuse en appelant cette théorie une science, ce qui n'est pas vrai. De quoi il s'agit? Il s'agit de la question la plus importante qui existe dans l'humanité. Depuis le début jusqu'à la fin, il y a une question qui tracasse l'esprit de chaque être humain qui est normal. Si ça ne tracasse pas, eh ben, il faut se poser la question sur cette personne. Nous tous, depuis qu'on a 5 ans, depuis qu'on a 6 ans, jusqu'on a 120 ans, il y a évidemment une question qui doit nous occuper et qui nous occupe. Une question qui nous occupe, que nous cherchons une réponse à donner et que nous avons tous, soit une réponse que nous sommes sûrs, soit des suppositions. On discute dessus, la question à savoir, ce monde que nous voyons, ce monde que nous regardons, ce monde dans lequel nous vivons, nous tous, nos parents, nos grands-parents, tout ce que nous voyons dans le monde, mais quelle est l'origine de ce monde? Quelle est l'origine? Comment ça a commencé tout ça? Nous savons tous que nous, vous tous que vous êtes ici, vous n'êtes pas les premiers humains dans le monde. Le monde n'a pas commencé avec nous, évidemment. Moi, j'ai des parents. J'ai un père, j'ai une mère. Bon, les enfants, quand ils ont 5 ans, ils se posent la question. Tiens, moi, je suis d'où je viens? Ah, c'est ma maman, c'est mon papa. Ah bon. Et papa et maman viennent d'où? Alors, souvent, on a des grands-parents. Alors, ah, bon, ça va. Pépé, c'est le papa de papa. Bon, d'accord, j'ai compris, mémé, bon. Et mon grand-père, il vient d'où? Eh bien, il avait aussi un papa. Bon, il n'est plus là, peut-être, il est niftar, d'accord. Mais il avait un papa. Et le papa de grand-papa, il avait aussi un papa. Eh bien, et ça commençait où? Cette question demande aussi au sujet des arbres, au sujet des animaux. Mais cet arbre-là, ce pommier, comment il a poussé ce pommier? Parce que quelqu'un l'a jeté le grain d'une pomme. Attends, le grain de la pomme. Donc il y avait une pomme. Et où il a poussé cette pomme? Sur un arbre. Et comment l'arbre il a poussé? Parce que quelqu'un a jeté un grain. Attends, donc il a jeté. Alors ça commence où? Chez la pomme ou chez l'arbre? Cet enfant qui ne pose pas cette question, c'est un enfant un peu simple. Simple, il ne pose pas cette question, mais qui n'a pas posé cette question? C'est évident. Maintenant, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ce qu'on propose comme réponse. Nous, que nous avons la chance extraordinaire que pas tous les êtres humains au monde, ils ont cette chance d'avoir une réponse si claire qu'il y a un Boréolam, il y a un créateur qui a créé le monde Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Au commencement, Dieu il a créé le ciel et la terre. Alors il y a des gens qui n'ont pas eu cette chance, donc ils étaient obligés de quoi? De vivre sans réponse qui nous est parvenue par prophétie. Ils se sont cassés la tête. Comment réfléchir? Quel est le début? Alors, il y a des différentes théories qui se sont montées. Alors, la plus farfelue de toutes les théories, c'est la théorie de Darwin. À savoir quoi? Il y a dans sa théorie deux parties. Une qui, dans le fond, n'est pas très importante, et une qui est importante. Les deux parties de sa théorie sont ainsi. Que tout a commencé par une espèce de, je ne sais pas quoi, quelque chose. Quelque chose. Et cette quelque chose a muté. Vous savez qu'est-ce que c'est la mutation, les cellules, vous avez fait un peu du bio. Alors, on voit que j'ai un grain de pomme. Et il mute, il devient un pommier. Extraordinaire. Il y a une mutation, il y a une progression. Alors, ce monsieur, il a dit, au début, il y avait quelque chose qui a muté et qui a fait que le monde, elle se construit comme nous le voyons aujourd'hui. Quelque chose existait, ce n'était pas un animal, ce n'était pas un arbre, ce n'était pas une pomme, pas un humain, quelque chose. Ce quelque chose se transformait. Je ne sais pas, c'est devenu de l'eau, devenu une autre chose. Après, c'est devenu un petit animal. Après, c'est devenu un animal qui rompe. Après, cet animal qui rompe est devenu une vache. Et la vache, après, est devenu un singe. Après, le singe est devenu l'homme. Donc, en fin de compte, moi, je descends du singe. Ce qui ne nous dérange pas trop... J'étais en arrière-grand-père. Arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père était un singe, Mazal Tov. Bon, d'accord, ça me fait pas mal au ventre. Bon, c'est un peu ridicule, mais bon, un peu dommage de savoir que... Mais bon, peut-être. Et avant le singe, il n'était pas singe, il était amphibien, c'était un poisson avant. Bon, alors on descend du poisson, ça ne me dérange non plus. Et avant un poisson, on était un petit... Un autre, comment? Tétard. Oui, quelque chose du genre. Et avant, on était un microbe. Bon, d'accord, ben, j'étais un microbe, ça, c'est pas grave, ça me dérange pas. Mais où est le problème? Je vous explique où est le grand problème. La question à savoir, ce microbe au début, est-ce qu'en lui, il y avait un programme? Comme il y a un programme dans un grain de pomme? Combien de programmes dans un ADN? Vous avez appris dans la science qu'est-ce que c'est un ADN. Vous avez appris dans la biologie que quand on met un grain de pomme dans la terre, qu'est-ce qu'il sort? Un pommier ou un poirier ou un poulet? Qu'est-ce qu'il sort? Hein? Non, c'est un pommier qui sort. Et pourquoi il sort un pommier? Pourquoi il ne sort pas une banane? Parce que les gènes... Les ADN, le programme qui est dans le grain de la pomme, c'est le programme d'un pommier. Quand il y a un chien qui se marie avec une chienne, il ne sortira pas un corbeau. Ils ont les gènes d'un chien. Maintenant, la question à savoir, est-ce qu'il y a vraiment un programme ou est-ce qu'il n'y a pas de programme? Est-ce que tout est né par pur hasard? Est-ce qu'il est concevable pour un esprit humain comme le nôtre, qu'on considère qu'on n'est pas des brêles, on est des gens normaux? Est-ce qu'il est possible que tout a été fait par un hasard, par une mutation par hasard? Nous ne pouvons pas les concevoir. Ça veut dire, j'ai ici une bouteille cristalline. C'est quoi est l'origine de cette bouteille? Hein? C'est du plastique. Le plastique vient d'où? Du pétrole. Les gens qui ont transformé le pétrole en plastique, ils avaient une usine, Ils ont une usine, il y a des machines, il y a un système, il y a une réflexion. Pour construire quelque chose, il faut réfléchir. Il faut construire. Mais de façon aléatoire, on ne peut pas construire des choses. On peut détruire, mais pas construire. Vous connaissez cette histoire? Une fois, quelqu'un, il a vu, il est parti chez l'autre, il a vu un ordinateur. Vous avez peut-être à la maison un ordinateur. Et à quelqu'un qui a dit, « Dis-moi, où t'as acheté cet ordinateur ?» Il lui dit, « Ordinateur, je l'ai fabriqué tout seul. » Mais non, tu blagues, tu ne peux pas fabriquer un ordinateur. Mais qu'est-ce que c'est l'ordinateur? C'est des plastiques, c'est des fils électriques et tout. Pourquoi je ne peux pas? Mais non, mais raconte pas des histoires. Bon, je vais te dire la vérité. Tu sais comment cet ordinateur se fabriquait? C'est ma grand-mère, elle avait une machine à laver. Elle tombait en panne. On habitait au 13e étage. Elle voulait le faire descendre, mais elle était trop grande pour faire entrer dans l'ascenseur. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à mon frère, on l'a jeté. Et la machine, elle avait tombé de 13e étage par terre et ça a explosé. Alors, il y a un fil qui est allé à gauche et un plastique à droite, ici, ici. Alors, c'est tombé et c'est devenu un ordinateur. Bon, tout le monde y comprend qu'il s'agit d'une blague. Quand on jette un ordinateur, quand on jette une machine à laver, on peut détruire, mais on ne peut pas construire. Construire quelque chose, il faut être intelligent, très intelligent pour faire un ordinateur. Tout ce qui est dans le monde, nous, les êtres humains, un œil, les oreilles, la peau, l'air, l'eau, le corps humain, il est tellement construit de façon géniale. Il faut des milliards sur des milliards sur des milliards des détails pour que ça peut exister, que le monde existe. Je voudrais boire de l'eau, mais d'où il vient cette eau? De la pluie. Et d'où il vient la pluie? Parce que le soleil tape sur la mer, mais dans la mer, il y a du sel. Alors, il faut que l'évaporation s'est faite sans le sel. Mais ça vient ici parce qu'il y a du vent, parce que la terre tourne. Mon estomac, il peut boire l'eau, la nourriture. C'est-à-dire celui qui a mis la mer et ceux qui a fabriqué le soleil qui tape sur la mer et ceux qui a créé les règles de la physique pour que l'eau s'évapore et ceux qui a fait que la terre tourne pour que le vent il vient ici et qui a créé les règles de la gravité pour que l'eau tombe par terre et ceux qui a créé mon estomac. Tout, c'est tellement génial, c'est tellement gigantesque qu'évidemment, chaque être humain qui est normal, il comprend qu'on a affaire, en regardant sur la nature, en regardant sur le monde, en regardant sur la complexité, milliards, puissance milliards, des détails qu'il y a dans le monde pour que ça tourne rond, évidemment, c'est quelqu'un, un génie super puissant qui a conçu ce projet et il l'a mis en marche. C'est l'évidence même. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Darwin? Il voulait imaginer un monde sans créateur, sans génie super puissant que nous appelons Dieu. Alors, il se trouvait devant le problème à savoir... Mais s'il n'y a pas des génies derrière d'où nous venons, alors il a simplifié le système par pur hasard. Il y avait quelque chose, il ne sait pas d'où c'est venu ce truc. Il n'y avait pas de programme dans la première molécule, aucun programme. Mais quelque chose qui peut se muter, et ça se mutait des millions, des milliards de fois, jusque c'est devenu un poisson, une molécule simple devenu un poisson. Après, les poissons devenus un amphibien, après, c'est devenu un cheval, après, un singe, et après, un homme. Mais comment? Mais on n'a jamais vu un singe devenir un homme. On n'a jamais vu un poisson devenir un homme. Alors, qu'est-ce qu'il a fait avec cette question? Il a dit, parce que la vision humaine ne se rappelle que des affaires des dernières quelques milliers d'années. Nous nous rappelons 3000, 4000 ans. Mais imaginons-nous que le monde existe depuis 200 millions d'années. Peut-être il y avait beaucoup, beaucoup de mutations qui ont fabriqué que le poisson est devenu un homme. Qui nous dit que non? Qui peut me prouver que ça ne s'est pas passé comme ça? Alors, l'illogisme dans cette théorie est évidente. Parce que nous voyons aujourd'hui que pour une transformation, pour qu'un grain devienne un pommier, il faut que dans le grain, il y ait un programme programmé, évidemment. Mais sans programme, on n'a pas vu une mutation qui devient quelque chose d'intelligent. On a vu quelque chose qui se détruit. Prendre un ordinateur jeté par terre, on le détruit, oui. Mais ramasser les débris et les jeter par terre pour que l'ordinateur, par hasard, il se fabrique, ça, on n'a jamais vu. Quelqu'un qui prend un livre de mathématiques et va dire, mais c'est extraordinaire, il y a un intelligent là qui a écrit ce livre. Mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas un homme intelligent qui a écrit. Alors, quand il a écrit ce livre, je vais m'imaginer qu'il y a ici un encrier, et ici il y a des feuilles, un chat il est passé, et le chat il a fait renverser l'encrier. Alors ça s'est versé, ça donnait des lettres et des chiffres, et ça donnait un livre de mathématiques. La chance que ça arrive, c'est 1 puissance presque à l'infini ou à l'infini. Ce n'est pas possible, c'est du délire, c'est n'importe quoi, tu disjonctes. Tu racontes un livre de mathématiques qui a été fait par un chat que par hasard il a sauté, il a jeté l'encrier. Notre esprit refuse d'accepter ce genre de balivernes. Mais ça, c'est un livre de mathématiques, mais on fait un peu de science, on regarde un peu ce qui est dans le monde, on voit qu'une cellule humaine, le corps humain, il est beaucoup plus compliqué que le livre de mathématiques le plus compliqué. Tout ça, ça se fait par pur hasard. La logique humaine refuse ça. Et pourtant, M. Darwin, il a prêché cette théorie. Et les gens, ils aiment l'accepter et ils ont dit que c'est une science. Ce qui est archi-faux. Une science, c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Une science, c'est quelque chose qu'on peut prouver par beaucoup d'expériences. Quelque chose que nous voyons souvent se répéter et que je peux prouver que telle et telle théorie est vraie parce que je le vois vérifier la chose. Mais une idée folle, qui n'a pas de support, que personne n'a pu prouver que ça existe, ça s'appelle une idée jetée dans l'air. Tu peux avoir la foi du charbonnier, tu veux croire comme un abruti à n'importe quelle idée, mais tu n'as pas le droit de l'appeler science. Or, quand vous regardez les livres de science à l'école, que la République française nous donne, eh bien, il y a les livres de science, si vous avez déjà vu, vous voyez là-bas comment, quand on parle de développement de l'homme, vous voyez comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une page où comme ça, il y a une espèce de singe avec des poils, poilus, un gorille, et qui est comme ça, après il est comme ça, il a une tête comme ça grosse. L'homme né à Andertal, et les proconsuls africanus, et nos ancêtres, pas les Gaulois, nos ancêtres. Alors donc mon arrière-grand-père, il paraît qu'il y a 200 millions d'années, il marchait comme ça, quatre pattes comme ça, après comme ça. Ah, comme ça, et doucement il devient plus humain jusqu'à nous. Nous regardons ça et nous pensons que vraiment la science aurait prouvé que c'est comme ça que ça se passait. C'est abuser du bon sens, abuser de la crédulité des enfants, des adolescents, des adultes. C'est tout simplement du mensonge. La science n'a jamais prouvé. Il n'y a aucune preuve que ça se passait comme ça. Il n'y a aucune façon d'expliquer qu'un singe devient un homme. Et si c'est vrai, on aurait dû trouver les chaînons manquants. Parce qu'un singe, il ne saute pas d'un coup un homme. Alors ils disent, après 50 milliards d'années, ça changeait un peu, encore un peu, dans les temps 10 millions d'années. Et tous les cadavres de ces intermédiaires, on aurait dû les trouver, or on ne les a pas trouvés. En vérité, tout ça, ça n'est que des hypothèses aberrantes qu'aucun esprit normal peut accepter. Vous allez me demander, mais la République française, elle est intelligente, le ministère d'Éducation, et en plus il est juif aujourd'hui, mais bon, ce n'est pas lui qui l'a inventé. La France n'est quand même pas Brel. Comment ça se fait que le ministère d'Éducation, depuis 100 ans, ils ont fait rentrer dans le système d'éducation de telles rêveries et en plus au nom de la science? Vous allez me demander comment est-ce possible. Eh bien, je vais vous dire c'est quoi la réponse. La réponse, elle est très simple. Tous les gens du monde comprennent que si le monde a été créé par quelqu'un, par une puissance, par un génie, alors c'est lui le patron de la chose. Il y a quelque chose, on appelle ça les droits d'auteur. Vous avez déjà entendu parler des droits d'auteur? J'écris un livre, moi j'ai les droits d'auteur. Si je vends, c'est à moi de donner, je suis chanteur. Vous connaissez Mordechai Ben David? Ou n'importe qui, Jean-Jacques Goldman, ou je ne sais pas comment il s'appelle. Un artiste, il invente une chanson. Eh bien, il y a des royalties qu'il faut lui payer. Si moi, je vais prendre une chanson d'un chanteur et je vais vendre des cassettes et moi, je prends l'argent, alors je suis un voleur. Il a droit d'auteur. Je construis quelque chose, c'est à moi. Moi, je construis quelque chose, c'est à moi. Vous, chacun qui construit quelque chose, c'est à lui. Si, comme la Torah dit, comme le monde l'a toujours su depuis toujours, si le monde elle a un patron, un constructeur, un créateur, alors il a des droits d'auteur. Ça veut dire, la logique humaine dit que moi, dans ma conscience, je comprends que je dois prêter l'oreille à la volonté, il a des droits d'auteur. Je dois lui demander qu'est-ce que je fais dans le monde. Ce que nous appelons en bon français, il y a des devoirs moraux. Je dois consulter s'il y a des devoirs moraux au moins. Je dois consulter les créateurs. Si le monde n'a pas de patron, je n'ai pas besoin de demander ce que je fais dans ce monde. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, il est dans un forêt, il est égaré dans le forêt. Et il a faim. Il veut manger quelque chose. Ah, il ne trouve pas. Et par hasard, il trouve une maison dans la forêt. Ah, Baruch Hashem, il a trouvé une maison. Il frappe à la porte, personne n'ouvre. Il s'est dit, peut-être il y a quelque chose à manger dedans. Bon, mais il faut que je demande la permission de manger, ce n'est pas à moi. Bon, il frappe à la porte, il y a quelqu'un, personne ne répond. Alors bon, alors il pousse la porte elle s'ouvre. Il y a quelqu'un, il n'y a personne. Bon, il est peut-être dans la forêt, le monsieur. Est-ce que à qui appartient cette maison? Il n'entend pas de réponse. Bon. Alors, il va à la cuisine, il va à un frigidaire, il ouvre le frigidaire, il y a dedans un poulet rôti. C'est bien. Il y a un poulet rôti. Alors, il se dit, bon, est-ce que je mange ou je ne mange pas? Il faut que je demande la permission. Alors, peut-être il va venir dans une demi-heure, je demande la permission. J'attends ou j'attends pas une demi-heure? Ou oui ou non? Alors, ce monsieur, il a faim. Il ne veut pas attendre. Alors, il s'est dit, mais si je n'attends pas, je mange, je suis voleur. Ah non, je ne suis pas voleur. Qui me dit que je suis voleur? En vérité, qui me dit que cette maison appartient à quelqu'un? Et peut-être elle appartient à personne. Ah bon, une maison qui appartient à personne, il y en a beaucoup. Alors, comment la maison, elle est là? Un chalet, comment elle est là s'il n'y a pas de patron? Mais non, ça, ce n'est pas une question. Vous savez qu'est-ce que ce monsieur, il s'est mis en théorie dans sa tête? Peut-être il y a la foudre qui est tombée sur un arbre et l'arbre, il est tombé comme ça. Après, une deuxième foudre, un deuxième arbre comme ça, un troisième comme ça, le mur est monté. Après, la foudre est tombée ici, l'arbre ici, monté le mur. Après, comment le frigidaire, il est ici? Peut-être, je ne sais pas, peut-être un hélicoptère qui est passé, ils avaient un frigidaire de trop, il est tombé. Et pourquoi il ne s'est pas cassé? Peut-être il y avait beaucoup de neige. Et comment il y a un poulet dedans? Je ne sais pas, peut-être il y a un poulet qui est passé ici. Et alors, comment il est déplumé et cuit? Je ne sais pas, peut-être il y avait par hasard ici une machine à plumes, il est passé dans la machine à plumes. Et comment il est cuit? Je ne sais pas, il y a peut-être une marmite, il y a la foudre, il a allumé le feu, il est cuit. Et comment après il est rentré dans le frigidaire mort? Je ne sais pas, peut-être un chat qui est passé, il a poussé. Mais qu'est-ce que tu racontes des histoires? Dis clairement, tu as envie de manger, alors tu manges, c'est tout. Pourquoi tu me fais toutes ces théories? Qu'est-ce que tu me trafiques ces théories? Tu as faim, tu ne veux pas attendre que le patron vienne. Alors, tu veux manger, dis la chose telle qu'elle, mais raconte pas que tu crois pas qu'il y a un patron. Ça, c'est la vie des millions et des milliards des humains sur Terre. On est ici, dans ce monde. Et par nature, nous voulons des choses. On veut manger, on veut boire, on veut se marier, on veut être riche. Mais il faut réfléchir. Est-ce que ce monde, elle a un patron? Elle n'a pas de patron. S'il y a un patron, il faut que je le consulte. Et si je le consulte, peut-être ce patron, il va dire, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Il y a des règles à respecter. Si quelqu'un ne veut pas respecter les règles, il peut s'imaginer, il voudrait s'imaginer que non, peut-être il n'y a pas de patron. Alors la logique humaine, elle dit du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24 heures, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, nous dirige vers penser, vers une conviction qu'évidemment qu'il y a un patron qui a construit. Évidemment, il y a quelqu'un d'extraordinaire qui a réfléchi, qui a mis le monde en marche. Alors dans ce cas-là, il faut que je cherche qu'est-ce que ce monsieur, ce monsieur, cet être, il demande. Ça, c'est ce que chaque juif pense et chaque être humain qui est construit de façon normale. Donc on consulte qui nous dit qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que Dieu veut. Alors nous, les juifs, nous avons la réponse. Kadosh-Baruch-Hu nous a donné une Torah. Il a donné déjà au premier homme une Torah. Qu'est-ce qu'il se passe s'il y a des êtres humains au monde qui ne veulent pas que la réponse sera qu'il y a un Dieu? Ils veulent écarter Dieu du monde. Alors, ils se posent la question, mais d'où le monde est venu? Alors, on s'imagine des scénarios fantastiques de cette façon. La foudre est tombée, la maison est venue, l'hélicoptère est passé, on raconte n'importe quoi. Mais dans le fond, tout le monde sait que c'est... Tu dis n'importe quoi. Eh bien, ce que Darwin a fait, cette théorie qu'il n'y a pas de programme et une mutation par hasard à fabriquer le monde, c'est quelque chose qu'aucun homme accepte. Et pourtant, on l'enseigne, comme je dis, en France et partout. Et vous savez quelle est la raison pourquoi on l'enseigne? Parce qu'on veut donner une bonne conscience aux gens qui veulent s'imaginer un monde sans Dieu. Et pour que les gens ils peuvent se plaire avec cette conviction de ne pas être en contradiction avec la logique, on dit qu'il existe une logique d'un homme qui s'appelle Darwin qui a monté cette logique. Mais la vérité, elle est qu'aucun scientifique il n'y croit. Il faut savoir que tous les scientifiques au monde, en tout cas 99,9%, ils savent que c'est du pipeau. Ils savent que ça ne tient pas la route, ça n'a rien de scientifique, c'est un aveuglement, une croyance aveugle. Mais on l'enseigne parce que comme ça, la République française laïque, elle veut qu'on l'enseigne. Ils veulent donner aux gens la possibilité de s'imaginer une vie sans Dieu. C'est tout. Mais aucun scientifique n'y croit. Et ceux qui croient est en vérité un imbécile et il se roule lui-même. Ça, c'est... Tout le monde le sait que c'est comme ça. Maintenant, à savoir comment Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, est-ce qu'il a créé l'homme traversant un singe? Il y a beaucoup d'épreuves que ça ne s'est pas passé comme ça, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, qu'il y a la première chose qu'Kadosh Baruch Hu, il a créé, Bereshit Bara Elokim, il a fait développer le monde, il a mis tout son génie dont le début, il a mis un programme dedans. Et ça, c'est tous les scientifiques qui parlent aujourd'hui d'un Big Bang. Qu'il y avait une fois le monde il est en expansion, autrefois ça a été compressé, il y avait une immense explosion. Tout ça, ça c'est tout à fait possible. Ça, c'est la traduction même de Bereshit Bara Elokim Va'aretz Hayta Tohu Va'vohu. HaKadosh Baruch Hu, il a mis en marche un système pour que ça se développe comme le monde aujourd'hui est développé. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Mais le point commun entre toutes les possibilités, que nous ne savons pas comment ça se passait, parce qu'il n'y a pas de témoin, il n'y a personne qui a vécu pendant cette création du monde. À Kadosh Baruch Hu, il était seul au monde. Et on essaye, les scientifiques, ils essayent de s'imaginer. Ils essayent de s'imaginer comment le monde est devenu. Mais tous les gens, ils sont d'accord qu'il s'agit d'un génie qui est mille millions, milliards, fois trillion, trilliard, puissance trilliard, fois plus intelligent que ce que l'esprit humain que nous avons. Nous devons être très modestes avec notre vision très, très partielle. Comme il disait Einstein, que si tous les scientifiques au monde, ils vont encore pendant mille ans réfléchir et découvrir les secrets de la nature, tous les scientifiques du monde, pendant mille ans, ils vont découvrir plus et plus et plus. Après mille ans, on aura découvert qu'une toute petite partie de cette sagesse qui se trouve dans la nature. Einstein, il savait de quoi on parle. Maintenant, est-ce que le monde existe depuis 5700 années comme la Torah raconte, ou 15 millions? Il y a des gens qui croient qu'il y a des contradictions. Il y a des grands scientifiques qui ont déjà dit qu'il n'y a aucune contradiction. Le temps, en vérité, c'est quelque chose qu'on peut voir de différentes façons. Des grands scientifiques, le temps ne se déroule pas chez nous de la même façon qu'on se déroule à d'autres endroits dans le cosmos. Mais ça, c'est des longues études. À comprendre que 15 millions d'années peut être 5 000 ans. Mais le fond de tout, c'est notre regard sur tout ce que nous voyons autour de nous. Est-ce que quand nous voyons la nature devant nous, est-ce que nous sommes émerveillés devant le génie, devant la complexité, devant le bon sens, devant la capacité de Dieu de créer cette chose? Et s'il a créé, il a créé la chose avec un but. Ou est-ce que le monde n'a pas de but? Il y a des gens, il y a quelque chose qu'on appelle dans la philosophie le nihilisme. Des gens qui, on s'en fout de tout. Vivre ou mourir, c'est la même chose. Bon ou mauvais, vrai ou faux, on s'en fout de tout. On est d'accord que tout, il n'y a pas de but dans la vie. Il y a beaucoup de gens dépressifs comme ça, ou qui veulent se suicider, ils sont nihilistes. Toute la nature montre le contraire. Toute la nature nous montre que celui qui a créé le monde, il a créé ça pour quelque chose. Une pomme, il a une belle couleur, il y a un odorat. On va, c'est fait pour donner de l'appétit. On a des dents pour manger, pour croquer. Les enfants, ils sont nés sans dents, alors ils boivent le lait. Et vous, ils peuvent prendre du lait. Voilà. Alors la mère, elle a du lait pour eux. Chaque chose est construite. On peut écrire, et on doit écrire, et ça a été écrit. Des millions de livres qui sont à la portée de nos mains, que nous lisons, que nous pouvons lire, pour voir tout le merveille qui existe dans la nature. La question, elle est-ce que ces merveilles font que nous sommes modestes devant le Boré Olam ou qu'on veut oublier le patron? Et oublier le patron, s'accaparer son monde pour faire ce que moi je veux, c'est du pur vol. C'est du vol. Mais mon corps ne m'appartient pas. Mon corps, le corps de mes enfants, le monde ne m'appartient pas. Ce n'est pas moi le patron. Donc consommer quelque chose, faire quelque chose, éliminer quelque chose, tuer quelqu'un, attends, tu n'es pas le patron. Il faut demander si ce qui a créé la chose est d'accord que tu consommes, que tu te comportes de cette façon. Ça, c'est le principe, et ce principe, personne ne peut l'ignorer. Alors, on raconte une fois quelqu'un, il a parlé de ce darwinisme, il y a de néo-darwinisme, il y a mille sortes de darwinisme, mais ils sont tous ridicules, un comme l'autre. Une fois quelqu'un, il a posé une question comme ça sur le darwinisme. Il y avait un microbe au début, il se transformait après un peu en pomme. L'autre, il est devenu un être humain. Mais attends, au début, il n'y avait ni être humain, ni les animaux, ni des pommes, ni la nourriture. Et chacun, il a évolué son programme que quelqu'un il a conçu. Alors, comment c'est possible que la pomme est devenue pomme après 150 millions d'années, au moment où ils sont devenus des êtres humains, et la pomme a reçu une couleur qui est visible pour l'œil, mais d'où la molécule qui se transforme en pomme est devenue une couleur, savait qu'il y a un être humain qui se fabrique un œil humain et qui a envie de manger la pomme. Et quand la pomme pourrit, alors la couleur, elle n'est pas bonne et ça donne une odeur pas bien. Mais d'où la pomme savait que l'être humain, il a un nez pour savoir si c'est une bonne odeur ou une mauvaise odeur. Ça veut dire, chaque chose, il marche une avec l'autre. On va prendre par exemple, on va poser la question. Cette question a été demandée dans l'Antiquité, avant les gens qui connaissaient la Torah. Est-ce que celui qui a créé la terre et ceux qui a créé l'humain, ceux qui a créé le soleil et la lune, est-ce que c'est le même ou ce sont des différents dieux? Alors imaginons-nous qu'il y a des différents ingénieurs et architectes qui auraient créé le monde. Est-ce que ça aurait pu tenir? Par exemple, le soleil est éloigné de la terre, combien de kilomètres? Hein? Quelqu'un y sait? 157 millions de kilomètres. Bon, très bien. Et si le soleil avait été éloigné 180 millions de kilomètres, on aurait été froid, on n'aurait pu plus vivre. Si le soleil avait été 130 millions de kilomètres, on serait tous grillés comme des cacahuètes. C'est pile 157 millions de kilomètres. C'est pile. Est-ce que celui qui a mis l'air et ce qui a créé le poumon humain, est-ce que c'est le même ou ce sont deux dieux différents? Comment ce qui a créé l'air, il savait combien d'oxygène et combien de gaz et combien d'azote, etc., correspond au poumon humain? Comment il a pu calculer ça tellement bien? Ça veut dire une chose sans l'autre chose ne peut pas tenir. Sans soleil, la terre ne peut pas tenir. Sans eau, etc., etc. Toutes les règles, on a besoin de tout pour faire le monde. Quand la Torah nous dit qu'il y a un Dieu qui a créé le monde, c'est la chose la plus logique. C'est la chose la plus logique. Ce qu'il faut savoir, c'est les principes de notre émouna, de notre foi. Qu'il y a un Dieu qui a tout créé, c'est ça qui a donné en vérité l'envie et la possibilité aux scientifiques de s'imaginer que les règles de jeu partout sont les mêmes. Les règles de la gravité, les règles de l'électricité, toutes les règles de la physique sont partout dans le cosmos les mêmes. Ils sont partout les mêmes parce qu'il y en a un qui a créé tout, qui a tout conçu. La foi que nous les Juifs nous avons avec la logique humaine, ça marche main en main. Il faut savoir, la foi et la science et la religion, ils sont liés d'une façon qu'on ne peut pas les séparer. Séparer la foi ou un Kadesh Baruch Hu avec la science, on tombe dans l'absurde. Et ça c'est élémentaire. Et c'est important à savoir parce qu'il y en a des gens qui essayent de dire non, ça ne marche pas ensemble. Ou encore plus, qu'il y a une contradiction entre la science et la foi. Un jour, vous allez finir ici le terminal, vous allez peut-être partir à l'université et vous allez peut-être rencontrer là-bas des gens qui diront le contraire de ce que je dis maintenant. Alors, étant donné que vous êtes intelligente, vous allez confronter ce tout petit peu que je viens de dire ici, mais qu'on doit développer encore beaucoup plus, on peut développer beaucoup plus. Vous allez confronter ce que peut-être éventuellement vous allez entendre par des laïcs, par des athées dans les universités, par des étudiants, ou peut-être des fois par des profs, et vous allez le confronter avec ce que nous savons de la Emouna. Et vous allez les juger avec votre bon sens. Qui est-ce qui parle avec bon sens? Et qui est-ce qui dit des aberrations? Et vous allez juger et vous allez savoir. Les gens qui ne réfléchissent pas avec le bon sens, malheureusement, on ne peut pas leur aider. Quand quelqu'un il a la tête, il ne marche pas bien, on ne peut pas lui aider. Si quelqu'un il est de mauvaise foi, on ne peut rien faire avec les gens de mauvaise foi. Souvent, des mauvaises foi, c'est quand on a envie de faire quelque chose qui sont contre les règles de la morale. Quand il y a une contradiction, peut devenir de la mauvaise foi. Je vais vous raconter une petite histoire, vous allez juger vous-même. Un jour, il y avait un meurtre dans une ville. On a trouvé quelqu'un assassiné, on cherchait l'assassin. Bon, ah, ils ont mis la main sur quelqu'un. Il était accusé de meurtre. Bon, ils ont fait amener la justice. Alors le monsieur, il arrive, le juge, il parle. Alors le juge, il dit, monsieur, vous êtes accusé de meurtre. Ah bon? Quoi? Mais vous savez, monsieur tel et tel était assassiné. Et on dit que c'est vous. Ah ben on dit, ben c'est faux, moi je ne suis pas l'assassin. Oui, mais il y a des preuves, monsieur. Ah, vous avez des preuves? Quelles preuves vous avez contre moi? Eh bien voilà, il y a ici 3 personnes qui vous ont vu que vous l'avez tué. Ah, ça c'est pas une preuve. 3 personnes, vous savez très bien, monsieur le juge, que des fois il y a des menteurs dans le monde. Moi je dis que ces 3 personnes sont des menteurs. Alors le juge dit, oui, mais peut-être vous êtes le menteur. Ah ouais, c'est aussi possible. Bon, il y en a 3 qui disent, vous êtes le menteur, et vous dites qu'eux sont les menteurs, alors qu'est-ce qui a plus de chance? Il dit, oui, il y a 3 fois plus de chance que moi je suis le menteur, mais ça c'est pas une preuve. Peut-être que ces 3 sont des menteurs. Ouais, vous avez raison, c'est possible. Selon le problème, il est qu'on a trouvé aussi sur le revolver avec lequel on a tué, on a trouvé vos empreintes, monsieur. Ah, il y a des empreintes. Il dit, mais vous savez, monsieur, je peux avoir un sosie. Sur les 7 milliards de gens dans le monde, il peut y avoir 2 personnes qui ont la même empreinte. Ah, le juge dit, oui, mais ça c'est une chance sur 3 millions. C'est plutôt logique de dire que vous êtes le menteur. Il dit, oui, mais ce n'est pas encore sûr. Mais moi, j'ai dit, c'est un sosie. Il dit, oui, monsieur, mais le problème, il est qu'il y a une photo qui vous a vu et que vous avez parlé, vous étiez filmé et c'est votre voix. Il dit, oui, monsieur, mais ça, on peut imiter ça. Vous savez, un film, on peut le monter. Ah ouais, il est fort, celui-là. Il est fort. Et qui est ce sosie? Je ne sais pas, il habite peut-être en Afrique du Sud, mon sosie. Et comment il est devenu l'Afrique du Sud dans votre village pour tuer ce monsieur? Mais l'argent, le monsieur qui était assassiné, tout son argent l'a trouvé dans votre tiroir. Il dit, bon, ben, je ne sais pas, ça c'est peut-être le chien du voisin, il est venu, il a pris l'argent, il l'a mis dans ma poche. Mais monsieur, vous vous tournez au bourrique. Je comprends, vous ne voulez pas le prison, c'est tout, vous dites-le clairement. J'ai tué, mais je ne veux pas le prison. Faites-moi... Mais qu'est-ce que vous essayez de nous tourner au bourrique? Mais dans l'absolu, et peut-être, prouvez-moi que ce n'est pas le chien qui est venu, mais prouvez-moi. Prouvez-moi que mon sosie d'Afrique du Sud, que peut-être il existe, n'est pas venu pour tuer. Oui, mais attends, il y a le bon sens, non? Vous êtes coupable, monsieur. Tout le monde le comprend. Vous ne voulez pas le prison, donc vous êtes de mauvaise foi. C'est ça qu'on appelle de mauvaise foi. Eh bien, s'imaginer le monde sans HaKadosh Baruch Hu, c'est du pur mauvaise foi. Et si on est de mauvaise foi, maintenant les gens qui le veulent être de mauvaise foi, on les laisse. On les laisse, ils veulent continuer à croire à des enfants, des contes de fées pour adultes. Il y a des contes de fées pour enfants. Le darwinisme, c'est un conte de fées pour adultes. Les gens qui se contentent avec ce genre de racontage, eh bien, ils se contentent. Mais ce n'est pas à nous de vendre notre bon sens pour croire à des contes de fées, en appelant un conte de fées la science. Ça, c'est ce qui est important. Il ne faut jamais l'oublier. Et à fur et à mesure, vous allez grandir, vous allez rencontrer plein de gens et vous allez voir des gens de bonne foi et des gens de mauvaise foi et des gens de bonne foi qui croient à des balivernes qui ne tiennent pas la route. N'oubliez jamais de toujours garder la tête droite et le bon sens pour ne pas vous laisser embrouiller. Voilà, ici, c'est le discours. Si vous avez peut-être une question à demander, vous pouvez poser une question. Ou des questions. Oui, je vous écoute.
Nous, on a appris cette année la théorie de Darwin. En fait, on a vu que ce n'était pas que l'homme descend du singe, mais que l'homme et le singe, ils ont l'ancêtre commun. C'est pas pareil, en fait.
Oui, ça c'est une variante qu'ils essayaient, parce que comme il y avait 10 000 questions contre le fait que l'homme descend du singe, Ils ont cru. Mais le problème n'est pas est-ce que l'homme descend du singe ou le singe de l'homme, ouais, ils en ont c'est en commun. La question elle est-ce que c'est une mutation par hasard ou est-ce que c'est un génie qui a mis ça en marche? Ça, c'est la question. Ça, c'est un détail, si l'homme vient du singe ou des singes de l'homme. Mais la question, elle est, est-ce que le singe est devenu homme par hasard ou parce qu'il y en a quelqu'un qui est très super intelligent, qui a mis cet ADN, il a mis ce développement dedans? Ça, c'est la question. Le reste n'est pas important. Le reste n'est pas important. Un être humain, quand la femme elle est enceinte, au début, le fœtus, il est un millionième de millimètre petit, l'œuf qui se trouve chez la maman. Et après, il se développe en être humain. 9 mois après, il y a un bébé qui sort avec des choses extraordinaires. Au début, c'était tout petit. Mais ce qui est génial, c'est que dans cet œuf, tout au début, il se trouvait tous les chromosomes et l'ADN pour ce futur développement. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Nous intéresse pas savoir si l'homme vient du singe de l'homme, un ancêtre. Le darwinisme, ce qui veut faire passer, que c'est une mutation, la nature vient par hasard. Et ça, ça c'est la mauvaise foi. Vous comprenez
Mais dans notre corps, on en a tout le temps des mutations ponctuelles.
On a des mutations. Vous savez, les mutations dans le corps, par exemple, je vous donne un exemple. Quand quelqu'un il est malade, il a fièvre. Après, vous savez pourquoi on a fièvre? Est-ce que la fièvre, c'est une maladie ou c'est une guérison? Hein? Quand on a fièvre, on dit on est malade. Mais en vérité, la fièvre lui-même, c'est quoi? C'est une réaction du corps contre un terroriste qui s'introduit dans le sang. Il y a un microbe, il y a un virus. Il y a un virus qui s'introduit dans le corps, il veut abîmer le corps. Alors, dans le sang, il y a des globules rouges, des globules blancs. Alors, ils font la guerre contre ce qui s'introduit pour le tuer. La fièvre, c'est une réaction saine. Alors, le corps, il a des anticorps contre des choses qui le détruisent. Ça montre quoi? Ces anticorps ne viennent pas par hasard. C'est dans les gènes qui se trouvent dans notre corps, il y a un système immunitaire fabriqué d'une telle génie que si tel et tel virus vient, que le corps réagit de telle et telle façon pour se protéger. Ce n'est pas un hasard. Les mutations saines, il y a des mutations malsaines. Barmenan, quelqu'un, il a un cancer. Ce sont des mutations malsaines qui détruisent le corps. Les mutations qui sont saines, c'est construit avec un système très, 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 très poussé. On nous a mis pour la survie de l'être humain, pour la survie de la nature. Ça peut s'adapter, mais sans réflexion au début, il ne peut pas exister ces mutations intelligentes. Qui a encore une question? Oui, je vous écoute. Là, vous avez acheté un abonnement, c'est bon. Oui, c'est possible. Bien sûr, sûr qu'Hachem, il est à l'origine du singe et de l'homme aussi. Maintenant que le singe est devenu homme, l'homme est devenu singe. Moi, personnellement, je ne suis pas trop adepte, je crois que mon arrière-grand-père était un singe. Mais bon, ça, c'est personnel. Mais ils n'ont pas de preuve que l'homme devient du singe. Ça, c'est du délire. Mais même si c'est comme ça, si c'est Akadosh Baruch Hu qui décide que dans un singe, il se trouve une capacité de mutation pour devenir un homme, il n'y a pas de problème. Mais que le bon Dieu, il a mis un génie super puissant, il a mis dans la cellule, dans l'ADN d'un singe, la capacité de se transformer en homme. Oui, bon, ça, si Akadosh Baruch Hu il a fait ça, pourquoi pas? Il peut transformer un grain de pomme en pommier, ben voilà. Mais ça se trouve dedans, il a mis ça dedans. Ce n'est pas une mutation par hasard. Encore une question? Ça va. Bon, si votre copine capitule, alors ça ne vous oblige pas de capituler. Plus de questions? Bon, d'accord. Shabbat shalom.